Vous écoutez
RMC.
RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos. Putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit. Ok. Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. L'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télévision sur RMC Sport News. L'after, la seule émission en France en direct 7 jours sur 7. Casting du soir. Bonsoir Jonathan Macardy.
Bonsoir les amis.
Oh, bonsoir les amis.
Ouais.
Bonsoir Kevin Diaz.
Bonsoir à tous.
Voilà, on est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr, avec un gros programme ce soir. Bien sûr, on va débriefer ce match nul entre Nice et Rennes, un but partout. On en parle dans un instant, appelez-nous supporters rennais et niçois. Que faut-il penser de ce match nul mérité ou pas? Est-ce qu'il y a du mieux dans le jeu niçois? Et Rennes, qu'est-ce que Rennes peut espérer dans cette deuxième partie de saison? Grosse page mercato, je le disais à l'instant, parce que ça s'agit sérieusement au sommet de la Ligue 1. Deux arrivées à Lyon et un échange de joueurs attendu, très probable, entre le Paris Saint-Germain et la Juve. Et puis, la mission to Dortmund, c'est dans 26 jours. Huitième de finale, aller de Ligue des Champions.
Oh là là, ce
le Borussia a joué ce soir. Un homme a marqué. Je dis pas qui.
Ah, bah, Haaland.
Paulo Breitner nous dira que le 11 actuel du Borussia ne sera plus forcément le même 11 face au PSG dans 26 jours. 32-16.
Mission to Dortmund, un truc comme ça, là. Un truc bien.
Mission to Dortmund.
Il y en a.
Je sais pas combien il y en a allemand.
On va demander à Paulo.
C'est quasiment la même chose, je crois. Ouais.
On va demander à
32-16, hashtag RMC Live, application RMC Sport, direct studio, vos messages, vous nous les envoyez. On vous répond, bien sûr, dans l'after. On est ensemble jusqu'à minuit, mais d'abord, l'essentiel, comme tous les soirs ou presque dans l'after, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Jonathan.
C'est un match nul qui, pour ma part, premier point, est assez logique. Chaque équipe a eu un petit peu son moment. Chaque équipe a eu ses lacunes. Je pense notamment défensivement du côté de Nice, dans la construction et dans la finition côté rennais. Donc c'est un match nul qui, voilà, est mérité pour les deux équipes. Le deuxième point, je pense toujours que même s'il y a du mieux ce soir du côté de l'OGC Nice, il y a toujours un problème d'équilibre dans cette équipe. On y reviendra sûrement plus tard. Je pense que Vieira a toujours du mal à construire son milieu de terrain, mais que cette équipe a quand même un fort potentiel à maximiser. Et le troisième point, c'est le match de l'OM demain à 17h30. Marseille, on va savoir. Parce que Dimitri Payet n'est pas là. Et on va voir ce que donne Marseille sans Payet, sachant que lors de sa suspension, Marseille n'avait pas fait grand-chose. Donc attention, danger pour l'OM demain face à Angers.
Kevin.
Alors moi, premier point, j'ai envie de dire enfin du foot, du beau football, un vendredi soir avec ce très très beau match. Moi j'ai vraiment aimé. Il y a eu de l'intensité du début jusqu'à la fin.
C'est vrai, ouais.
Deuxième point. Voilà, un match aux deux visages. Première mi-temps vraiment pour Nice, avec une belle équipe de Nice que j'ai beaucoup aimé dans les intentions, dans la qualité technique également. Et une deuxième mi-temps où on a vu une équipe de Rennes bien revenir et même qui voulait aller chercher la victoire. Et troisième point, bien sûr, je vais être court, le bien nommé Haaland avec l'accent. Quel phénomène.
On n'en dit pas plus pour l'instant. C'est flippant. Hein. Le mec, c'est un mutant. On en parle tout à l'heure avec Paulo Breitner vers 23h40, dans une heure à peu près. Tiens, messieurs, parenthèse basket. La NBA est à Paris. C'est historique.
Oh là là.
Nicolas Karabatic, hein, une des guest stars sur le match NBA Milwaukee contre Charlotte, c'est avec Cyril Méjean. Bonsoir, Cyril.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Cyril.
Hey, Cyril. Ah, oui.
Vas-y, Cyril.
Très bien. Avec Nicolas Karabatic. Alors, il y a beaucoup de people ce soir et il y a beaucoup de monde du PSG Hand. Nico, est-ce que tu es heureux de voir du basket à Paris, du basket NBA à Paris?
Je suis heureux de voir la NBA à Paris, bien sûr. Oui. J'aime beaucoup le basket, j'ai plus beaucoup le temps de le suivre, mais c'est fantastique de voir de la NBA à Paris. Enfin, c'est historique déjà. Et voilà, comme on est sorti de l'Euro un peu plus tôt que prévu, c'est tombé parfaitement. C'était la parfaite occasion pour venir assister à ce moment historique. En plus, le match est serré, donc c'est cool.
Il y a eu un hommage à Tony Parker juste avant le début du match. Il représente quoi, Tony Parker, pour toi? Est-ce que c'est au même niveau que toi pour le hand?
Ah, je pense qu'on ne se compare pas entre sportifs et je ne me compare pas à Tony. Tony, il a fait quelque chose d'incroyable pour le basket. Le basket français, il a, je pense, permis de rêver à des millions de gamins, de montrer que être français, arriver en NBA, gagner en NBA, faire partie des meilleurs et gagner des titres, ben c'est faisable. Je pense qu'il a fait rêver beaucoup de Français. Avec l'équipe de France aussi, il a toujours porté haut les couleurs de la France, alors qu'on sait que les clubs NBA mettent la pression pour pas les porter et pour pas faire les compétitions internationales. Bah, il a fait tout ça et je pense que c'est un monument, c'est une légende du sport français et c'était beau de voir cet hommage pour lui, donc je suis content pour Tipeee.
Merci beaucoup Nicolas Karabatic. Messieurs, j'espère avoir une surprise pour vous en fin de troisième quart-temps.
Neymar.
Non, Neymar. Peut-être pas Neymar, mais assis juste à côté de lui.
Kylian Mbappé. Oh, il est fort.
Alors, on va essayer.
Ah, tu vas essayer. Ah, essayer, c'est une chose, c'est déjà beau. Mais bon, la voir, c'en est une autre.
Exactement.
À tout à l'heure, Cyril, effectivement, tu te matches 64-61 pour les Charlotte Hornets de Nicolas Batum, qui ne marque quasiment aucun point, qui a des stats dramatiques, qui est en fin de carrière.
Merci pour lui.
J'ai adoré le joueur, mais c'est terrible ce qu'il devient là. Nice-Rennes, score final 1 partout. Merci Jonathan de mettre la pression. Casper Dalberg avait ouvert le score pour les Niçois à la 47e. Flavien T, enfin un but. Ouais, le joueur de Pierre Ducroix a marqué son premier but sous les maillots de Saint-René à la 81e. Match hyper spectaculaire, on l'a dit. Un mot sur le classement quand même avant d'accueillir un supporter niçois. Tout de suite, Rennes, 3e, à 4 points de Marseille qui compte un match en moins. 37 points pour Rennes. Rennes, c'est la première fois que Rennes a un tel nombre de points après 21 journées. Son record historique égalé avec celui de la saison 2007-2008, hein, depuis 12 ans. Et Nice, 10e de Ligue 1 avec 29 points, très loin de l'ambition niçoise. Salut Philippe, supporter de l'OGC Nice au 32-16. Bienvenue dans l'after.
Bonsoir monsieur.
Salut Philippe.
Salut Philippe.
Vous allez bien?
Ouais, et toi?
Bon. Ah ben moi je me suis fiché. Moi je me suis ennuyé.
Ah ouais? Tu t'es ennuyé?
Ah, je trouve que le jeu de Nice est stéréotypé.
Philippe, parle bien dans ton téléphone s'il te plaît.
Ouais, je dis que le jeu de Nice est stéréotypé, que cette année je m'ennuie vraiment quoi. Je trouve qu'il y a trop de passes latérales et que le jeu... Est... Bah, regardez le stade, il est vide, c'est pas pour rien non plus. C'est que...
Ah attends,
y a
ouais. pas. C'est aussi la grève hein, des transports à Nice hein, qui fait ça. Hein.
Certes, mais je suis abonné. Je vois que les abonnés, même les gens tout court, ça dépérit. C'est peau de chagrin, ça diminue. C'est parce que le jeu n'est pas
présent. Bah ça, on est d'accord.
Philippe, quand même, ce soir, si tu t'es ennuyé. Je sais pas si alors je veux bien dire qu'il y a eu quand même des matchs de Nice qui ont été assez pauvres dans le jeu, souvent dû aux blessures ou aux absences. Mais moi j'ai quand même envie de le noter. Monsieur. Mais attendez, tu penses pas que ce soir on a vu quand même notamment une première heure de jeu ou en tout cas une première mi-temps assez cohérente de la part de Nice.
Première mi-temps.
Bah moi j'ai trouvé, moi je suis supporter Nice, on met vraiment hein, dans le sang. Moi je trouve que Rennes, donc, franchement ils ont un meilleur jeu que Nice. J'ai trouvé le petit 7, la Rafinha, c'est un super joueur. Ce soir, il m'a épaté, quoi. Il m'a énervé. Et, je veux dire, on n'a pas un joueur à Nice qui arrive à se retourner avec le ballon et à créer une différence, à créer de la profondeur. Vous me parlez de jeu. Dans le jeu de Nice, c'est quoi? C'est des passes latérales, c'est des passes en retrait. Il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur. Messieurs, moi, j'ai vu Ben Arfa.
Ils se sont créés quand même des occasions, Philippe.
Quelle occasion! J'y étais au stade, j'étais de les voir avec les yeux tunaires, vraiment avec l'amour. Mais non, c'est pas très
Philippe, Philippe, Philippe. Philippe.
Franchement,
vas-y, Jonathan.
On est triste, hein.
Philippe, je suis d'accord avec en partie avec ce que tu dis parce que Kevin a raison. La première mi-temps, il y a quand même eu beaucoup d'intensité mise de la part des Niçois et c'était par rapport aux productions habituelles de Nice, c'était quand même relativement correct. Après, là où je te rejoins, c'est que l'OGC Nice depuis le début de la saison, c'est une équipe qui a quand même eu des renforts de qualité et je pense que cette équipe souffre toujours d'un manque d'équilibre criant. Alors ce soir, Vieira encore une fois illustre ses, allez, je vais pas dire lacune tactique parce qu'on va dire que je lui tape dessus, mais ses errements. Je trouve que cette idée de débuter en 4-2-3-1, elle est pas mal sur le papier. Mais le milieu de terrain avec Lesmelou et Cyprien fait que tu n'es pas assez solide et forcément tu es hésitant et ça donne lieu à faire ce que tu constates Philippe, à savoir un redoublement de passes latérales et très peu de construction. Ça manque concrètement de Lyon. Et puis encore une fois cette frilosité de Patrick Vieira qui sortira d'Amounas pour faire entrer Burner. Je n'ai pas compris ce changement. Je trouve que voilà, l'OGC Nice a quand même un très beau potentiel, des très bons joueurs, mais encore une fois un chef d'orchestre qui n'est pas à la hauteur du tout.
Pourquoi il fait sortir Ounas?
Parce qu'il est cramé, ça on est d'accord.
D'accord.
Là, il est au bout là.
Mais Philippe, bon, tu fais sortir Philippe, un ailier puis tu le remplaces par un latéral droit.
Non mais c'est quand même un petit peu. Les gars, à ce moment-là du match, qu'est-ce qui se passe pour Nice? Philippe, qu'est-ce qui se passe au moment où Adamounas
Nice est en souffrance, les gars.
Les gars, Nice est en souffrance.
Carrément,
Non mais d'accord. Je serai le premier à dire oh là là, il est frileux, il y a que 1-0, il fait sortir un ailier pour faire rentrer un latéral.
Jonathan, c'est un petit peu gonflé. Jonathan, juste laisse-moi finir, Philippe. Après, je te laisse la parole.
Non mais Kevin,
Jonathan, tu peux pas. Vas-y, Kevin. Tu peux pas me dire qu'il est frileux parce qu'il sort un joueur dont tu me dis toi-même qu'il est cramé et en plus son équipe elle est en difficulté.
Je pense que
c'est pas un changement. C'est pas un changement frileux, ça s'appelle tout simplement un changement tactique.
Ok, donc tu fais sortir un ailier, tu mets un latéral.
Attendez, est-ce que vous connaissez aujourd'hui les deux postes? Alors deux postes les plus importants aujourd'hui au niveau du jeu. Voilà. Merci Philippe. Donc tu peux me citer tes deux latéraux aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ouais, Malangsar qui est un central et Rennes qui est un central.
D'accord. Est-ce que c'est Patrick Vieira ? D'accord ? Est-ce que c'est Patrick Vieira qui a demandé à ses présidents de ne pas avoir mieux que Malangsar et RL ?
On est d'accord.
Non mais les gars, voilà tout ce que je dis. Donc je te dis que
dans ce cas-là, on commence le match directement avec Nsoki et Bernard.
Si je joue pas, c'est parce qu'ils sont moins bons.
Pas qu'ils sont moins bons. C'est qu'il y a des joueurs. Moi je vais te dire ce qui s'est passé parce que Nice, ça fait quand même Philippe, je pense que t'as vu tous les matchs de Nice.
Jonathan, il va nous dire ce qui s'est passé parce qu'il est dans le vestiaire tous les jours.
Non, parce que j'ai vu tous les matchs de Nice quasiment.
Et dans les entraînements.
Vas-y Jonathan, je pense que t'es un peu chiant là. Je pense que le début, en fait, ce qui s'est passé, et Philippe va nous confirmer, c'est que c'est totalement la psychologie Patrick Vieira. Il s'est dit, ok, alors à Rennes, t'as quand même par exemple un Rafinha qui va pilonner sur le côté. Rennes, ils sont vraiment pas mauvais sur le côté. Ah bah, je vais mettre 4 centraux. Parce qu'en fait, Patrick Vieira, on ne veut pas se l'admettre, mais c'est un entraîneur ultra défensif qui ne sait pas gérer ses phases de jeu offensives. Et je pense que Philippe.
Monsieur, excusez-moi.
Si t'as vu les
matchs de Nice. Vous avez vu les latéraux de Nice, ils ont pris la marée. Rafinha, il a mis en première mi-temps, Malangsar. J'ai l'impression que c'était un marathonien. Il n'arrivait pas à vous tenir. Il a rien qu'il a couru derrière Rafinha, Malangsar.
C'était couru d'avance.
Moi, honnêtement, je suis d'accord. Je trouve que Patrick Vieira, et ça me désole parce que ça a l'air d'être un super gars, mais en tant qu'entraîneur, il est surestimé.
Philippe, s'il te plaît, Jonathan a déjà dit ça.
Laisse Philippe finir, vas-y.
Les gars, excusez-moi. Juste, moi, je trouve, honnêtement, je n'ai rien contre l'homme, loin de là.
Ah, bien sûr. Ça a l'air d'être un chic type en plus.
Quand je vois, j'ai eu la chance de voir Puel et Favre ces dernières années. Excusez-moi, monsieur, mais ils arrivent à tirer la
quatrième
à leur poste. Là, j'ai l'impression qu'ils prient de ces joueurs parce que les joueurs, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne sont pas à leur poste.
Mais ça, Rafinha, c'était couru d'avance ça allait être un carnage.
Okay. Les gars, non, mais c'est vrai, si je peux me permettre, rappelons quand même que Christophe Herrel et Malansard ne sont pas des latéraux de formation. Malansard a répété à l'envi qu'il voulait jouer dans l'axe.
Surtout, les gars
acceptent de rendre des services.
Malansard, Rafinha, c'est couru d'avance que ça allait être un carnage.
D'accord. Donc, vas-y. Est-ce que maintenant footballistiquement on peut vous apporter une réponse ou pas? Ou vous allez continuer à me dire
après, que tu m'as dit tout à l'heure que les latéraux des postes les plus importants du foot aujourd'hui.
Donc laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que sans être à l'entraînement comme toi Jonathan, je te dis pourquoi il a fait jouer Malangsar et RL défenseur. D'accord? C'est une équipe
latéraux.
C'est une équipe qui sur 3 mois, c'est combien de défaites Nice Jonathan, tu le sais? Sur 3 mois, sur les 3 derniers mois?
Il y en a une
très
deux.
Peu.
Il y en a 2, non?
3?
Toutes combattent contre 3
défaites.
Il y en a 2 ou 3, ouais.
Et deux défaites. Une contre Saint-Etienne, une contre Lyon. D'accord? Tout le reste, il y a 4 victoires et 4 matchs nuls en championnat, plus 2 en coupe. Ok. Donc, c'est une équipe qui aujourd'hui a quand même Claude Maurice, Adam Ounas, Casper Dolberg, Cyprien, Maolida et Les Melou dans cette équipe. Oui. On ne peut pas dire que c'est des joueurs défensifs quand même. Ça fait 6 joueurs, je viens de te citer.
Tu mets le doigt à mon moulin?
Non, je viens de te citer six joueurs qui ont quand même un caractère à jouer vers l'avant.
Oui.
Est-ce que c'est complètement illogique derrière ces 6 joueurs, sachant qu'au football, je vais pas vous apprendre, on joue à 10 joueurs de terrain, de mettre 4 joueurs qui sont de formation des défenseurs.
Philippe, attends, et après tu prends la parole.
Moi, je suis totalement. En fait, t'apportes de l'eau à mon moulin, parce que ce que je déplore chez Patrick Vieira, c'est toujours ce problème au milieu de terrain. Je pense que son milieu de terrain, il a du mal à le structurer. Et en fait, c'est vrai, il y a 6 joueurs offensifs. Mais justement, l'équipe, elle est totalement déséquilibrée. T'es pas, ce milieu de terrain.
Cyprien, il sait faire les deux.
Laisse-moi terminer. Ce milieu de terrain entre Les Melou et Cyprien, il y en a aucun. Attends, Philippe. Exactement. Cyprien, c'est un box-to-box et il y a aucun joueur qui est capable d'apporter le surnombre défensif dans les phases de transition. Alors, je veux bien comprendre, je suis d'accord. Il compense en mettant quatre centraux. Mais ça donne quoi? Ça donne un bloc qui n'est pas équilibré du tout.
Mais il simplement, a été équilibré pendant 45 minutes, Jonathan.
Mais ça peut pas durer sur l'ensemble d'un match parce que forcément, Cyprien et Les Melou, au bout d'un moment, ils sont rôtis. Et tu regardes, je pense que si on regarde les stats, tu regardes le nombre de ballons récupérés, passé la 50e minute, ça chiffre à 100.
Au final, juste pour finir, Nico, on est d'accord.
J'ai pas fini. J'ai pas terminé. Donc le problème de cette de Patrick Vieira, si moi je trouve que c'est un entraîneur qui est surcoté, c'est parce que quand on regarde le matériel qu'il a à sa disposition, je regarde juste sur le banc,
Nice.
Des Samézé, des joueurs comme ça qui refusent de faire jouer.
Il est champion du monde, c'est une légende d'Arsenal. Il est entraîneur à Nice.
Je peux finir. Nous sort des
mais pourquoi vous dites qu'il est surcoté?
Mais on s'en tape de ça qu'il soit champion du monde, voyons. Là, on regarde ce travail à Nice
surcoté.
Je peux me permettre, Kevin. C'est vrai que la carrière de joueur n'interfère en rien. C'est qu'un entraîneur, ça ne doit rien dire. On a vu des champions du monde se rétamer.
Si tu veux t'amuser,
alors vous n'avez pas compris ce que je veux dire.
Philippe et moi,
vous avez pas compris ce que je veux dire. Quelqu'un qui est surcoté, c'est quelqu'un qui est entraîneur à un statut qui ne mérite pas. Mais aujourd'hui, il est entraîneur à Nice. Il n'aurait jamais joué à Nice comme
mais
joueur.
Il n'a même pas le niveau d'être
donc
entraîneur.
Pour lui, être entraîneur à Nice, c'est comme si toi, t'étais entraîneur mais à plutôt en 8ème
division
de district.
Il n'a pas le niveau d'être entraîneur à Nice.
Non, mais tu vois ce que je veux dire?
Mais Kevin, dans une équipe.
Mais tu ne pouvais pas me dire qu'il est surcoté. Être surcoté, Kevin, ce serait lui donner un poste.
Kevin, dans le projet niçois.
Dans le projet niçois. Un petit peu quand même. Non, mais la parole à Philippe aussi.
Dans le projet niçois, qui veut être ambitieux, qui ont quand même acheté un. On est d'accord, le mercato est quand même relativement correct cet été. Il y a des beaux joueurs qui sont arrivés. Dans ce projet-là, je pense que Patrick Vieira n'a plus le niveau d'entraîner une équipe de Nice qui a des ambitions européennes.
Moi, je dis pas ça. Juste, je t'explique que je te dis.
Attends, et j'ai pas dit qu'il l'aurait jamais, hein.
Pour moi,
j'ai dit qu'à l'heure actuelle, il l'aurait jamais.
Pour moi, être surcoté. C'est-à-dire, c'est toucher une équipe que personne n'aurait pensé que Patrick Vieira pouvait entraîner. Je suis désolé, l'OGC Nice, par rapport à la personne qui est Patrick Vieira dans le football français.
Ce que je veux dire, Jonathan, c'est que
c'est un escalier qui est logique.
Pour moi, il a pas le niveau d'entraîner Nice. Et là, parce qu'il est champion du monde et qu'il a un statut en tant que joueur.
Pour moi, tu lui donnes un meilleur effectif et on verra s'il
n'a
pas.
Effectivement, la question. Philippe, excuse-moi, je pose une question parce que, tout à l'heure, on parlait de Lucien Favre, la nostalgie de Lucien Favre ou Claude Puel. L'équipe n'était pas la même à l'époque, quand même, hein. T'avais plus de matériaux, de...
T'es sûr de ça, Nico?
Ah ouais, l'équipe de Lucien Favre était supérieure, quand même.
Dis-moi, quoi. Favre, de celle de Puel.
Individuellement?
T'avais Ricardo Pereira
également?
À l'époque, t'avais Ricardo Pereira déjà à droite et à gauche, t'avais d'Albert. Ça change
celle
tout.
Celle de Favre, pas celle de Puel.
Monsieur, une chose, cette année, Nice a eu le plus gros mercato de toute l'histoire du club. Ça veut tout dire. Arrêtez de parler.
Ils ont acheté qui?
Ils ont acheté tout le mec qui l'ont payé 20 millions. Ils ont acheté Claude Maurice 15 millions. Ils ont acheté Mizan Mavida l'année dernière 10 millions. Ils ont pris, qui c'est qu'ils ont pris encore cette année avec des groupes. Alors attends, que je me.
Dolberg, Ounas, Maolida l'année dernière.
Ils ont pris 5 millions le prix de Ounas, les gars, s'il vous plaît.
Mais c'est les prix aujourd'hui, les gars.
Non, mais attends, excuse-moi, c'est 5 millions un prix. Je te parle d'un prix, là, c'est un prix.
Bon,
un prix payant, Ounas. 5 millions un prix payant.
C'est très cher.
Dis-moi, Ounas, s'il te plaît, qu'est-ce qui t'a apporté dans le jeu? Dis-moi le nombre de buts.
Ounas, une passe décisive cette saison.
Merci. Les gars, juste une chose. Moi, je vais pas encore m'étaler sur Vieira, mais quand même, je veux dire, l'équipe, elle a l'image du capitaine. Non, c'est pas ça. Je veux dire, si t'as un coach qui est en carton, ben ton jeu, il est en carton. Si t'as un coach, regardez, vous prenez des équipes qui ont des coachs qui sont moins techniques, mais qui sont un peu plus... On n'a même pas la grinta, les gars. On mène 1-0. On n'a pas de fond de jeu. Mais ayez au moins la grinta de...
Moi, je suis pas d'accord avec toi, mais après, c'est ton avis.
Oui, bien sûr. Mais heureusement que chacun...
Oui, bien sûr, non mais ce que tu dis, ça se défend. Tu sais, Philippe...
Sur le but qu'on prend, moi, c'est ça qui me rend fou. C'est exactement... C'est à cause de cette façon de jouer, au milieu, comme tu l'as dit, on est... complètement cuit. Nos joueurs, ils sont cuits parce qu'il y a un déséquilibre qui se
parce que Cyprien Lesmelou, c'est pas du tout complémentaire au milieu de terrain. Et ça a ni queue ni tête de mettre ces deux joueurs-là ensemble dans un milieu à deux.
Qu'est-ce qui se passe? T'as Maurice qui veut faire des siennes. Il est seul au milieu du quatrième. On perd le ballon. Boum. Action derrière. L'équilibre, il est bancal. Il y a plus personne qui prend. Et on se prend un but.
On vient de reprocher à Vieira d'avoir été frileux. Et maintenant, tu me dis qu'il n'y avait pas assez d'équilibre.
Mais en fait,
les gars,
c'est incohérent.
Je peux vous donner un petit peu l'équipe de Puel, par exemple. Hein.
Vas-y, Nico, moi, ça m'intéresse.
L'équipe de Puel à l'époque, bon, t'avais Jean-Michel Seri qui était qui sa meilleure saison, un monstre à l'époque. Ricardo Pereira qui était un monstre aussi. Cosiello qui était une des révélations du championnat.
N'exagérons pas.
Qui a un peu disparu depuis.
Un monstre, Cosiello, les gars, arrêtez, s'il vous
plaît. Non, j'ai pas dit que c'était un monstre, Philippe. Doucement. C'était un bon joueur de Ligue 1, Cosiello.
Correct.
Ouais, d'accord. Très bien. Oui, maintenant, oui, mais
il joue même plus.
Philippe, faut que tout le monde redescende un petit peu là. Moi, je vais essayer de parler calmement. Cosiello était parfait dans le système de Claude Puel.
Ouais.
Dans transition courte, voilà. Ouais. C'est un joueur extrêmement simple. T'avais à ma vie.
Mais c'était parce que l'équipe, elle était.
Philippe, il faut vraiment que tu me laisses parler. Après, tu pourras t'exprimer. Puis il y a Hugo qui arrive également, supporter niçois. T'avais également Valentin Essérique.
Ouais.
Bonjour de Ligue 1. Atem Ben Arfa.
Ouais.
Joueur. Monstre. Valère Germain, hyper efficace.
Il était très bon cette saison-là, ouais.
Eh non, mais les gars, t'as une équipe à l'époque. Une équipe qui se connaît également.
Ouais, ça c'est vrai. Mais je pense que quand tu
regardes... Là, t'as quand même recruté 5 ou 6 joueurs. Nico, il faut les faire jouer ensemble.
Tu regardes les joueurs qui composent l'effectif niçois, je pense qu'il y a quand même mieux à faire. Et je pense que surtout que le problème de Patrick Vieira, c'est que je vais prendre l'exemple d'un joueur hyper talentueux qui est Mizian Maolida. Il est là depuis 2 ans. Pour moi, je l'ai pas vu progresser.
Il progresse pas.
Je l'ai pas vu progresser, alors que c'est un joueur qui est quand même très prometteur. Tu sens quand il est sur ses premières prises de balle et tout, tu sens que c'est un joueur qui a besoin d'être cadré, qui est juste un petit peu foufou parce qu'il a tendance à faire les mauvais choix. Et c'est à l'entraîneur de faire progresser ses joueurs.
C'est vrai que je rejoins Jonathan. On n'a pas le sentiment que Vieira tire la quintessence des joueurs. En tout cas, qu'il les rend meilleurs depuis qu'il les a. Ça, c'est vrai. Très court. On va parler de Nice encore dans un instant et de Rennes aussi. Okay. Supporter rennais, l'after élève qui est menu. Bon, c'était un peu chaud sur Vieira, mais je le savais. On le savait. Voilà, il y a un pro Vieira, il y a un anti Vieira. Si je schématise,
moi, je suis pas anti-Vieira, je m'en fous. Non, je m'en fous. Moi, honnêtement, il me fait ni chaud ni froid. Si c'est bien, on le dit. Hein.
Merci Philippe. Tu reviens quand tu viens dans l'after. Hugo arrive également au 32-16. Appelez-nous, supporter René. Qu'avez-vous pensé de la prestation de votre équipe, hein, meilleur en seconde période. Et puis, on parlera également du mercato lyonnais, parisien, du Borussia Dortmund également. Et pourquoi pas de l'OM, si tu veux, Jonathan, en fin d'after. À tout de suite.
Ouais.
RMC. L'afterfoot. RMC. L'afterfoot. Nicolas Jamain.
Et oui, on est ensemble jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Kevin Diaz. Vous écoutez RMC, il est 23h04 dans un instant. Tiens, on parle encore de Nice rapidement et d'Adamounas, le Kaounas. Et de Rennes, bien sûr, score final à partout ce soir en match d'ouverture de cette journée de Ligue 1. Tiens, le basket, ça, à Bercy, la NBA s'invite à Paris, vous le savez, pour la première fois en France. Match entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets, Stephen Brown,
le canard.
Avec Arnaud Valadon.
Ouais, c'est plus facile de faire Stephen Brown face à Américain qu'Arnaud Valadon.
Arnaud Valadon
84-79 pour les Milwaukee Bucks, donc face aux Charlotte Hornets. Milwaukee, la meilleure équipe de l'NBA. C'est un petit peu un diesel. Ils ont mis une mi-temps à se mettre en route. Et dans le sillage du meilleur joueur de la saison régulière, Giannis Antetokounmpo, 20 points, 14 rebonds. Ils sont en train de faire la différence.
Ouais, ouais, les Bucks se sont mis 4ème carton. Ils se sont dit, bon, c'est le money time. On va se mettre à jouer. Ils ont pris les commandes il y a 2-3 minutes maintenant. Eric Bledsoe est bon. Giannis Antetokounmpo fait carnage comme d'habitude, uniquement dans la raquette. Sur ces 20 points, il y en a quand même 17 dans la peinture. Et puis on sent que Charlotte commence à tirer la langue malgré la bonne performance de leur secteur extérieur.
Et 2.4 rebonds seulement pour Nicolas Batum, notre Français de Charlotte.
Stephen, t'as envie de descendre sur le parquet ou pas?
Non, j'apprécie, ouais, mon grand, t'inquiète, ça se régale tout ça. Hé, hey, Nicolas Batum, à deux doigts de mettre le panier plus la faute. J'ai vu que Nico Batum, il s'est fait tailler un costard par Nico Jamain d'entrée de jeu. Il a pris en tête Nico Jamain, il l'a détruit.
Bah ouais, non, t'es pas d'accord avec moi?
Ah, écoute,
c'est plus vraiment un basketteur NBA là, Nico Batum, excuse-moi.
Non, il faut qu'il change d'équipe, ça va pas du tout avec Josh Brown.
Ah, c'est à cause de l'équipe, d'accord, ok.
Alors là où je suis choqué, Nico, c'est que Batum, il va quand même jouer plus de 30 minutes.
Et là, on voit Michael Jordan sur l'écran géant.
Il traverse la rencontre.
Bon, allez, on a un match de Ligue 1 à débriefer, les amis. Là.
Comme Casper Dolberg, en fait. Casper Batum.
Ouais, d'accord. En fait, celle-là vient de loin. Elle était préparée depuis un quart d'heure.
Elle était nulle.
Pas du tout.
Bon, les gars, on s'en fout du match, du résultat. Là, ce qui m'intéresse, c'est Mbappé, Neymar. Là, ils sont encore là, les gars. Ils sont barrés. Ils sont
libres. Bien sûr, ils se régalent. Ils sont premiers. Ils se régalent, mec. Ils se régalent.
Verratti, Thiago Silva. Voilà, ils sont tous là au bord du terrain, très bien placés. Et Michael Jordan est là.
Par contre, il y a Choupo-Moting qui est là, mais il n'a pas le droit au ça, lui,
il est un peu isolé de tout le monde.
Il est
c'est
pas
vrai.
Au premier rang, lui, d'accord.
Okay. Non.
C'est qui bon, alors je rappelle que pendant ce temps-là, Cyril Méjean tente tant bien que mal d'avoir Kylian Mbappé dans l'after en direct. Ce serait magnifique. Hein. Ce serait quasiment une première. Kylian Mbappé dans l'after ce soir. Ce serait magnifique. À tout de suite, messieurs, pour la fin de ce match entre les Milwaukee Bucks et les Hornets de Charlotte. Joueur mythique de Charlotte. Le plus petit joueur de l'NBA.
Maxi Bugs,
1m59, incroyable.
Jonathan.
Alors, messieurs, j'accueille Hugo, supporter niçois au 32-16. Salut Hugo.
Salut tout le monde.
Salut Hugo. Bon, est-ce que t'as aimé parce que Philippe, supporter niçois également, s'est ennuyé ce soir?
Alors, il s'est ennuyé, il est fou. J'avais appelé une fois pour un Nice Bordeaux où j'avais démonté Vieira. Pour résumer rapidement, je pense que si effectivement il y avait Favre et Puel à la manette de l'équipe actuelle qu'on a maintenant, elle serait meilleure, ça c'est clair. Je pense qu'avec Vieira, on est parti de beaucoup trop loin, que sa formation, elle était vraiment trop peu avancée pour venir à Nice.
Eh oui.
Néanmoins, ce soir, je crois que j'ai rarement vu un match tactiquement aussi abouti que Vieira où il a tenté quelque chose. Alors, avant de me tomber dessus, il y a plein de choses qui manquent. Hein. Il est loin d'être parfait, ce match. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a essayé d'adapter un système où il défendait en 4-4-2 avec Ounas et Misiane qui défendaient vraiment.
Sur les côtés,
il y a eu un gros point de discipline avec eux, je pense, parce qu'ils ont vraiment, ils sont vraiment donnés.
C'est d'ailleurs pour ça qu'en deuxième mi-temps, il n'en pouvait plus, le pauvre Ounas.
Ouais, c'est vrai, mais mais du coup, en attaque, ils tentaient un espèce de 3-3-4 avec Lesmelou qui montait en 10 ou qui couvrait les espaces laissés par Misiane qui mène au but, hein, même s'il y a une blessure sur le but, c'est ce qui a mené le but. Et avec un Danilo aussi en double poste, ni stopper, ici, c'est Danilo qui est beaucoup plus complémentaire avec Cyprien. Je trouve qu'il, là, pour une fois, Vieira, il a vraiment tenté un truc, quoi.
Mais tu sais, Hugo, on va pas te tomber dessus parce que je sais pas si t'écoutais avant, mais moi, je suis d'accord avec toi sur aujourd'hui. Je trouve qu'il a tenté des choses. Il y en a qui ont marché. C'est vrai qu'en fin de match, sur la dernière demi-heure, ils ont puisé notamment physiquement, mais j'ai trouvé un match intéressant de la part des Niçois.
Clairement. Et Vieira, il a vraiment tenté un truc. Moi, Vieira, je veux pas lui tomber dessus pour rien. Quand il faisait rien, quand vraiment il plaçait des joueurs et que c'était démerdez-vous, je le dis. Aujourd'hui, il a vraiment tenté quelque chose. Alors voilà, il a tenté un truc où il mettait il a tenté un système à trois défenseurs où effectivement on n'avait que des centraux et je pense que ça tiendra pas. Parce que là, c'est vrai que Rennes, sur la largeur, même si en deuxième mi-temps ils ont vraiment tenté et nous ont fait mal. Je veux dire, si on tombait contre Lyon, sur qui on va tomber les prochains matchs, une compo comme ça, on
prend une balle. Justement, Hugo, pour finir avec Nice peut-être, mais moi je disais, on en reparlera avec Jonathan, parce que je vois tout à fait ce qu'il veut dire aussi sur Vieira, sur, comme tu viens de dire, est-ce qu'il était déjà prêt? Ça, on ne sait pas, on verra. Je pense déjà qu'à la fin du mois de février, il y a 5 matchs de Ligue 1 en février, et les 5 matchs, tu viens de le dire, le premier c'est Lyon. Ouais. Après, il y a Reims, Nîmes, Toulouse et Brest. Et on refera le point, si tu veux, tu nous rappelles au 32-16. On refera le point. Non, mais tu vois ce que je veux dire?
Oui, on refera
le point à la fin du mois de février. Là, il y a des matchs à part Lyon qui sont largement abordables pour le Nice de Vieira. Et on verra s'il n'y a pas trop de blessures.
Tu aurais pu rajouter Bordeaux.
Le problème,
c'est juste que là, on a tenté un système sans latéraux. Et je pense qu'effectivement, ça ne tiendra pas.
Parce qu'il y a Talos qui n'est pas là.
C'est trop difficile sur la largeur défensivement. Mais Vieira, à la fin du match, et ça a été dit par Ménès ou les commentateurs, que Vieira le disait, au niveau des largeurs défensives, ils nous font trop mal. Donc lui-même s'en rend compte du problème. Alors oui, moi aussi j'aime pas et toujours des joueurs qui jouent pas à leur poste, c'est clair. Aujourd'hui, il a essayé d'adapter sa philo, enfin voilà, le fait qu'il est
oublions pas qu'on a été champion du monde avec 4 défenseurs.
Mais le problème en fait, moi ce qui me gêne vraiment, et c'est j'ai l'impression de radoter depuis des semaines à chaque fois où on fait Nice, c'est pas tant vraiment qu'ils mettent 4 centraux derrière à la rigueur. Oui, il y a beaucoup de joueurs offensifs, il y a pas de souci là-dessus. Mais moi, le vrai problème, et il est récurrent, et c'est ça qui m'agace, parce que je comprends pas qu'il ait toujours pas résolu ça, c'est le milieu de terrain. Ça n'a ni tête de mettre Lesmelou et Cyprien, je m'en vais, mais ça n'a ni queue ni tête de les mettre ensemble.
Ah, mais moi, de son Lesmelou, mon avis, alors, il se donne beaucoup, c'est un très bon joueur.
Mais c'est pas son poste.
Enfin, voilà, c'est bien, c'est pas son poste, et puis, il se donne beaucoup, enfin, très bon joueur, non, c'est pas un très bon joueur, loin de là.
C'est un joueur correct de Ligue 1.
C'est un joueur correct, mais.
Il était bien à Dijon.
Milieu, il faudra, moi ce exactement. Que je disais, hein, depuis longtemps, il faut qu'on prenne un vrai 6. Il faut qu'on ait un vrai 6.
Attention, vous n'avez jamais remplacé Seri, c'est clair.
Ouais, mais on a pris Khéphren Thuram, je sais pas quoi on pensait de.
Il faut se rabibocher avec Tamézé.
Ça, c'est pas
Vieira la saison. Non, mais je sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais Tamézé, c'est.
Non, mais Tamézé, les gars,
il est juste Tamézé, c'est le mec le plus solide, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est le plus.
Il était sur le banc ce soir, Tamézé, quand même.
Il nous manque vraiment un vrai 6, mais à l'époque de Favre, on jouait pas vraiment avec un 6, on jouait avec deux mecs, donc Osiello. Ouais. Osiello, je vous ai entendu dire, c'est pas gentil, hein. C'était vraiment un très très bon joueur.
J'ai volé
le titre de meilleur joueur de Ligue 1 par Ousmane Dembélé à l'époque.
Espoir. C'est un très bon, je l'ai dit, c'était pas un monstre, bon joueur de Ligue 1.
À l'époque, on jouait avec un Cyprien box-to-box qui partait.
Ça n'avait rien à voir, les gars, mais bien sûr.
Et Cyprien qui restait plus devant la défense. Il l'entourait, qui le faisait relancer.
C'était quand même plus complémentaire,
attendez les gars.
Mais clairement. Mais de toute façon, l'équipe de 2017, là, on n'a jamais eu une équipe. Alors moi, je connais pas les équipes des années 60 et tout, mais on n'a jamais eu une équipe aussi forte. On avait une équipe type nickel à tous les postes. C'est la première fois de ma vie que je vois ça.
Exactement, Hugo. Bon. Précisons que cet hiver, Jean-Pierre Rivière, qui était l'invité de RMC en milieu de semaine, a dit qu'il n'y aurait pas de recrues cet hiver.
Mais de toute façon, Jean-Pierre Rivière, qui dit qu'il n'y a pas de recrues, il peut en arriver une, qui dit que Vieira va rester.
Oui, t'as raison, il a toujours fait.
Jean-Pierre Rivière, il est toujours dans le discours sécuritaire où on sait qu'à la fin, on n'a rien appris, en fait. Ouais, c'est, je le connais depuis le début, c'est comme ça.
Ouais, parfois, il sort des beaucoup de...
Une fois, Puel, il avait dit qu'il resterait peut-être, il avait laissé l'opportunité à quoi que, et finalement, il est parti.
Hugo, c'est, rappelle-nous, parce que ça m'est sorti en tête, là, c'est, on est bien d'accord que la personne qui s'occupait de la cellule de recrutement niçoise est partie.
Ouais.
Et elle est à Monaco, c'est ça?
De quoi?
Elle est à Monaco maintenant, c'est ça?
Je crois. Je crois, voilà. Ouais. Bah, mais là, on est en train de tout restructurer derrière. On est en train de tout reprendre derrière.
Mais c'est une grosse perte, ça. C'est une grosse perte parce que pendant longtemps, on avait coutume de dire dans l'after que Nice avait la meilleure cellule de recrutement qualité-prix de la Ligue 1. Quand tu vois Nice, les coups qu'ils ont fait.
Trop des coups, hein, les Ben Arfa, les Balotelli, en fin de mercato.
Jean-Michel Seri,
Ricardo Pereira, magnifique.
D'Albert.
Seri.
500 000 Seri, je crois. 500 000, ou 1,5 million, ou c'est pas cher.
Derrière, on est en train de tout restructurer à tous les postes. On a au poste de gardien, on a quand même Tizi qui est resté. Nous, derrière, franchement, on a une infrastructure qui est ultra solide.
Hugo, il faut peut-être accepter que c'est une saison de transition et que le projet est sur du long terme.
C'est une saison de transition, ça, je suis d'accord, mais l'entraîneur est le mec le plus important.
Effectivement.
Et les latéraux,
ce sont les postes les plus importants dans le football.
Mais après, moi, je suis d'accord. Si on me propose un Unai Emery, et Unai Emery, que je pense qu'il se collerait parfaitement au projet niçois, qui est un mec, moi, je n'oublie pas le Unai Emery de Séville, qui est un mec qui, voilà,
peut-être. Qui fait progresser les joueurs.
Pardon ?
Qui fait progresser les joueurs.
Ah ouais, clairement. Je pense que voilà, lui, c'est un mec qui peut tirer le maximum. C'est vrai qu'après, au niveau de la gestion, rien n'est parfait. On a Cissé, qui est parti, qui a été prêté au Portugal, dans le championnat portugais, qui était un jeune qui vraiment montrait des choses. Et je trouve qu'au vu de des centraux qu'on a maintenant, c'était pas le moment de le faire partir, quoi. Il y a des manques, mais aujourd'hui c'était le match le plus abouti de Vieira, je trouve.
Voilà.
Et j'attends de voir. Allez. Mais je trouve toujours qu'il part de trop loin.
On conclut la suite sur Nice, Hugo. Merci Hugo. Merci Hugo. Tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr.
Nickel, hein. Bah ouais.
Allez, bonne soirée à toi.
Allez, au revoir.
Ils sont en forme, nos auditeurs. Vous aussi d'ailleurs ce soir. Tiens, on nous dit sur le direct studio, on me dit Joe et Kevin, continuez à de vous chamailler. On écoute pour ça. On veut du débat, on veut de la voix. Ouais, c'est vrai que les décibels sont montés un petit peu tout à l'heure. Dans un instant, Guillaume, supporter René, avec nous au 32-16, mais d'abord un détour par Bercy, le basket, la NBA, et ça y est, les Bucks s'envolent peut-être, il reste du temps, face aux Hornets de Charlotte. Arnaud Valadon, Stephen Brown.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi, ils sont en train de s'envoler doucement et sûrement vers la victoire, 98-89 pour les Bucks, avec Giannis Antetokounmpo, 26.15 rebonds, inarrêtable Stephen.
Inarrêtable, il vient de claquer un énorme dunk sur la tête de toute l'équipe des Hornets, et c'est marrant parce qu'avec Arnaud Valadon, on s'attendait à ce genre de scénario, c'est-à-dire une petite une équipe de Milwaukee qui trottine les trois premiers quart-temps et qui accélère le jeu dans le quatrième quart-temps, et c'est exactement ce qui se passe. Charlotte n'existe plus, tout simplement. Tous les ballons vers Giannis Antetokounmpo, qui justifie pour le moment son titre de MVP acquis la saison dernière.
Et qui va peut-être conserver cette saison, hein, parce qu'on rappelle qu'on a la meilleure équipe NBA cette saison-là.
Exactement.
Sur le parquet.
Six petites défaites. Petites défaites en 45 matchs pour les Bucks.
Et peut-être le meilleur basketteur du monde. Ça, c'est très relatif, effectivement. On en parlera plus tard.
Ouais,
c'est très
relatif. Bien sûr, Nico. Avec plaisir.
Merci, Stéphane. À tout de suite pour la fin du match, hein, pour le Money Time. Quel suspense. Incroyable. C'est les poncifs, tu vois. Waouh. À 3 points, c'est manqué à l'instant. Batum, combien de points, messieurs, pour l'instant?
Nicolas Batum, il est à 5 points, 1 sur 8 au tir, 6 rebonds, 5 passes. C'est un peu mieux en deuxième mi-temps.
Voilà, à tout à l'heure messieurs. Salut Guillaume, supporter René au 32-16.
Salut Guillaume.
Salut oui, Guillaume. Salut tout le monde.
Bon, alors, t'as apprécié la prestation du Stade Rennais ce soir. On rappelle, Menin 0 qui revient et qui marche un petit peu sur Nice pendant 20 bonnes minutes en deuxième période.
Pas de chance, précise. Hein.
Ah ouais, avec la frappe d'Emba Nyang sur la barre.
Et les deux blessures.
Les deux blessures au même poste. Guillaume.
J'ai vraiment apprécié le match en son ensemble, et surtout d'un point de vue sportif rennais. L'équipe titrait entre guillemets Nice contre un Rennes match nul. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Rennes entre guillemets qui au mental, au forceps, laisse Nice à distance. Et franchement, Rennes m'a fait plaisir ce soir. En dehors du fond de jeu qui a été très très bon, avec les tuiles qu'on a eu, des blessures, la barre transversale, le but un peu gag avec la blessure sur le côté de Merzi. Et l'équipe, elle est revenue avec la rage aux dents, et pendant une demi-heure, elle a déroulé, elle a marché sur Nice, Et sur les demi-temps, limite, on a des regrets de pas gagner, quoi.
Ouais, c'est au milieu de terrain que t'as repris le contrôle en seconde mi-temps. J'ai trouvé encore une fois Kamavinga très très bon. Très bon match aussi de James Léa Siliki, même s'il fait cette faute un petit peu bête, qui aurait pu le mettre en danger pour la fin du match. Mais j'ai trouvé qu'ils ont été très performants. Alors, Flavien Thé n'a pas fait un grand match, mais je pense que ce but va lui faire du bien, va le remettre.
Ça va mieux, Flavien Thé,
Il enchaîne. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Ouais, je te rappelle qu'il avait très mal commencé. Son premier match avec Rennes, il avait pris un carton rouge, il était expulsé. Je pense qu'il a eu un peu coupé la confiance. T'as Rafinha qui, pour moi, va faire une seconde partie de saison canon. Je pense qu'il a, voilà, il a pris ses marques sur les 6 premiers mois, mais tu sens que c'est un joueur qui a vraiment du ballon. Mais j'en reviens toujours à ce petit truc qui peut un peu me frustrer avec Rennes. C'est que c'est une équipe qui, je pense, si elle avait quand même un avant-centre plus efficace, sans rien enlever à Mbaignan qui se démène bien, je trouve qu'il est sérieux, qui se replie défensivement, mais qu'il n'est pas assez efficace. Si Rennes avait un numéro 9 un peu plus réaliste devant les cages, je pense que tu passerais un vrai palier. Alors, je sais qu'on avait parlé au mercato d'hiver d'une éventuelle recrue à ce poste-là. Je ne sais pas s'il y a eu du nouveau. Mais en tout cas, voilà.
Équipe sérieuse. Stéphane a plutôt insisté sur le fait qu'il y avait des recrues mercato, de récupérer de l'expérience. Je pense en effet au milieu de terrain et devant. Ouais, je pense que Nyang était creusé aussi. Hein. Il a enchaîné Coupe du Monde, il a enchaîné la CAN.
Il y a ça aussi,
Il était un peu naze. Et peut-être qu'en effet, il manque devant un peu de turnover pour dans des matchs un peu comme ça, mettre le pied qu'il faut ou faire l'accélération qu'il faut. Mais je pense pas qu'il faille lui taper dessus parce que.
Ce que j'aime avec cette équipe rennaise, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est vraiment leur capacité à jouer, peu importe le score. Tu vois, t'as toujours l'impression qu'ils ont quand même, et je pense que ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Stéphane. C'est une équipe qui croit en ses forces et qui sait que. J'ai même vu, tu vois, Rafinha, je sais pas si tu l'as noté, mais après l'égalisation, tout de suite, il a dit en français, allez, parce que, il doit pas connaître beaucoup de mots en français peut-être, mais tu vois, pour dire à ses coéquipiers, allez, on va essayer d'aller chercher le deuxième but. Et je pense qu'en effet, comme tu dis, s'il y avait une équipe qui devait marquer ce deuxième, ça aurait pu être les Rennais. Maintenant, moi, Rafinha, qui l'ai vu débuter d'ailleurs sur RMC Sport avec Guimarães, puis avec Sporting où il a eu un peu plus de difficultés, c'est quand même un joueur qui est ultra frustrant parce que quand il met la soupe à Malang Sarr là en première mi-temps avec cette accélération de 70 mètres et qu'après,
il est pas efficace.
Voilà, il manque d'efficacité dans le dernier geste. C'est incroyable comment devant le but. Alors, au niveau de la passe décisive, il est pas trop mal normalement, mais quand il s'agit de marquer des buts, et on sait que, comme disait Jonathan, et je le rejoins, Mbaignan, qui normalement est un joueur qui doit te mettre quand même ses 15 buts en Ligue 1, là, cette année,
il est à 10
ou 11 là. Non, mais je veux dire, c'est minimum pour lui normalement. S'il fait une énorme saison, il peut aller à 20, 25, Mais il te faut toujours, si tu veux finir dans le top 3, aller dans le top 5, déjà, ce serait bien pour Rennes. Il faudrait juste que les ailiers, les joueurs de côté te mettent aussi 10 buts. Et ça va être difficile avec Rafinha.
On est d'accord ou pas? L'effectif rennais est supérieur à l'effectif niçois?
Je suis d'accord, complètement.
Oui.
Pour vous, oui?
Pour moi, oui.
Je sais pas, je vais donner les deux équipes si vous voulez.
Derrière,
t'as ni Agnon, un Morel.
Ce soir, non.
Il y a des absences côté rennais. Mawassa.
T'as Da Silva aussi.
Petite révélation, Da Silva qui était suspendu. Léa Siliki, Kamavinga. Rafinha à droite, Flavien Thé à gauche, mais bon, Adrien Ounou qui fait une super saison pour l'instant, Mbaye Niang devant.
Pour moi,
c'est pas évident.
Sur le banc,
pour moi devant, devant Nice est supérieur.
Sébatcheux,
il est aux abonnés, ils veulent le vendre.
Il joue pas titulaire à Nice,
il est pas bien là. Parce que moi, je l'ai jamais
là,
mais ils vont le vendre, ça fonctionne pas.
Non, je vous pose la question, messieurs, pour comparer le travail de Julien Stéphane et de Patrick Vieira. On a deux effectifs quasiment identiques en termes de qualité.
Pour moi, Rennes, c'est supérieur derrière et au milieu, sauf ce soir parce qu'ils ont beaucoup d'absents, mais sinon, sur le papier, c'est quand même un petit peu supérieur Rennes derrière et au milieu. Par contre, devant, si tu prends les talents individuels, pour moi, Nice a des meilleurs joueurs offensifs que le Stade Rennais.
Juste, messieurs, j'ai une idée qui me vient. Alors, je dis pas qu'il doit venir là au Mercato, mais quand même, quand tu vois cette équipe de Rennes, cette équipe de Nice, il y a un joueur dont on a déjà parlé ce soir, que je me dis, mais il aurait pu s'éclater dans l'une ou l'autre des équipes,
c'est quand même
Atem Ben Arfa.
Ouais, t'es sûr.
Mais comment Atem Ben Arfa, aujourd'hui, n'a pas de club, et il a pas pu faire le choix de rejoindre un de ces deux clubs.
Faut croire que ce garçon atteint une position du Real Madrid ou de Manchester United.
C'est incroyable. Il aurait fait du bien aux deux équipes.
Oui, mais là, c'est trop tard, là.
Non, mais c'est incroyable.
C'est du gâchis. C'est du gâchis depuis des années.
Sur Rennes, il y a quand même une belle marge de progression encore. Et ce que tu disais sur le manque d'efficacité de Rafinha, en fait, le problème, c'est que c'est un petit peu la marque de fabrique de tous leurs joueurs offensifs. Beaucoup de jeux, mais dans le dernier geste, c'est quand même très brouillon. Et moi, je suis quand même assez dubitatif. Je pense qu'ils ont quand même une belle marge de progression, notamment quand ils vont récupérer Jonas Martin aussi, qui a jamais vraiment commencé sa saison, qui venait pour remplacer Benjamin André. J'espère, ça c'est peut-être un avis un peu personnel, mais j'espère que Clément Grenier réintégrera l'effectif, parce que je pense qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe. Je l'aime bien, il est sympa, tu vois.
Il a été bon l'année dernière.
Je pense qu'il peut apporter à cette équipe-là, justement dans la dernière passe, dans le dernier geste, qu'il a une capacité sur coup de pied arrêté que peu d'autres joueurs ont, même si ils avaient un absent. Là, il y a du matériel. Il y a du matériel.
Bourigeaud,
ouais.
Il n'y a pas de Bourigeaud à Nice.
Mais là, il n'est pas là ce soir.
Oui. Allez, les gars, on marque une pause. Merci, Guillaume.
Un petit mot.
Vas-y, allez.
Vas-y.
Je voulais juste souligner la formation rennaise. Ce soir, quand tu vois les absences qu'on a, il y avait 6 mecs formés au stade rennais.
C'est vrai.
J'ai perdu les noms.
Rennes a longtemps été le meilleur centre de formation français.
Pour terminer, on est troisième. Je pense pas que Rennes se prend pour un autre club. Nous, on est là parce que ça se passe bien. Ouais. J'ai envie de dire, c'est aux autres d'aller nous chercher, au Lille, au Bordeaux, au Monaco.
Tu vises le podium ou pas, mon pote, toi?
Franchement, on vise rien. On vise pour s'amuser. Et je pense que nous, on va faire la saison qu'on va faire. Aux autres d'aller chercher la troisième place. Nous, on est bien avec nos jeunes. Et on va voir ce qui va se passer. Mais on n'a pas la pression. C'est aux autres d'aller chercher la troisième place. Voilà.
Ok, Guillaume. Excellente soirée à toi. Je rappelle qu'on a un somptueux, un savoureux Rennes-Nantes le week-end prochain. Pourquoi? Parce que Christian Gourcuff va revenir à Rennes. Avait pour affronter Julien Stéphan, l'homme qui devait lui succéder à l'époque. Il a dit je bosse là, puis mon successeur sera Julien Stéphan, c'est intéressant. Et puis surtout, on a un Nantes 4e de Ligue 1 face à un Rennes qui est 3e de Ligue 1, ce sera un super derby. Bien sûr, je précise également, appel au 32-16 de Olivier, supporter niçois, qui nous dit que c'est Serge Récordier, le recruteur niçois, qui est parti à Monaco, mais qui est revenu. Et en septembre dernier déjà. Dans un instant, grosse page Mercato, bien sûr. On va parler des recrues lyonnaises, deux recrues aujourd'hui, et d'un échange entre un joueur du PSG et un joueur de la Juve. Reste avec nous, Jonathan Macardy, Kevin Diaz. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC L'Afterfoot, Nicolas Jamain
avec Jonathan Macardy, avec Kevin Diaz. On est ensemble jusqu'à minuit. Dans 15 minutes, on sera avec Paulo Breitner pour évoquer la victoire du Borussia Dortmund, impressionnant ce soir face à Cologne, avec Haaland, auteur d'un doublé, 5 buts en 57 minutes de jeu en Bundesliga. Voilà, déjà, c'est un mutant. Le basket rapidement avec Stephen Brun et Arnaud Valadon. Fin de match et c'est plié, messieurs.
Oui, les Milwaukee Bucks qui vont s'imposer dans quelques instants. 116-102 pour l'instant. Les 30 dernières secondes de cette partie. Et Giannis Antetokounmpo, 30 points, 16 rebonds, qui a porté son équipe ce soir. Ce match, victoire assez logique, on va dire, des Bucks. Stephen.
Oui, très logique. Victoire très logique. Quand ils ont tardé à rentrer dans la rencontre. Et puis le coup d'accélérateur. Giannis Antetokounmpo qui joue tous les ballons sur le quatrième quart-temps, qui marche sur tout le monde. Il va finir le match dans ses moyennes de stats habituelles. Le grec en face a noté la belle performance de Malik Monk avec 31 points. Malheureusement, le secteur intérieur de Hornets est défaillant comme d'habitude, et les Hornets qui ne gagneront pas leur 16e match de l'année. Malgré tout, ça reste quand même un match NBA. Alors les gens qui sont là vont peut-être être déçus, mais c'est la routine de la NBA. Trois quarts temps où on se regarde, où on se chauffe, et ça joue au basket.
Et la sortie de Nicolas Batum applaudit pour ce qu'il représente, pas forcément pour son match. 5 points, 1 sur 8 au tir, 6 rebonds, 5 passes, 116-103 pour Milwaukee. Encore 26 secondes à jouer.
Tiens, une déclaration de monsieur Jean-Michel Aulas, qui est sur le match, autour du match, lui qui actionnaire de l'ASVEL auprès de Tony Parker, qui dit: je suis comme un enfant le soir de Noël, il y a des jouets partout, c'est un très bon moment pour la France. Voilà, déclaration de Jean-Michel Aulas. Verratti a dit également que c'est un moment magique dans un bel endroit. Je viens regarder les talents des joueurs sur le terrain, je ne supporte pas d'équipe particulièrement. Voilà, il n'est pas fan. Fin de match avec vous, messieurs, quand même.
Ouais, les 4 dernières secondes, on mange un petit peu le chrono du côté de Milwaukee. On va pas jouer la possession, on va y avoir la dernière remise en jeu. Il reste 1 seconde 6. On a fait tourner, voilà, Giannis Antetokounmpo qui est sur le banc. Il y a son frère qui est là, qui joue dans l'équipe. Ouais. Bah, c'est terminé. Victoire pour ce premier match officiel de NBA Paris, du leader de la Grande Ligue américaine, les Milwaukee Bucks, 116-103. Cette très belle fête, 15 000 personnes. Bref, on s'est tout de même régalé. Et rendez-vous l'année prochaine, il y aura de nouveau la NBA Paris, Stephen.
Ouais, on est avec de nouveau un Français, pourquoi pas le Magic dans le Rondo. On sait qu'Evan Fournier était très triste que ça ne soit pas lui qui est originaire de Paris.
J'ai le seum comme un soviète, c'est ça, il a dit ça, je crois.
J'ai un seum de soviète.
Un seum de soviète.
Ah, je sais pas, un seum de belge, ça aurait été mieux.
Ouais, après ça doit faire partie plus culturel d'un rappeur qu'on n'écoute pas en ce moment, Nico Jamin.
Ah oui, d'accord, ok.
Après, soit le Magic d'Orlando, soit le jazz de Rudy Gobert, pourquoi pas. Écoute, on attendra l'affiche délivrée par Adam Silver à la NBA très prochainement.
La bise à Michael, Steve, c'est ton nouveau pote.
Pas de problème.
Tous, désormais,
pas de problème, merci Nico. C'est bien les amis.
Bonne soirée à vous les gars, merci Arnaud, excellente soirée à vous. Voilà, c'était le premier match de l'histoire de la NBA en France. Et match officiel, bien sûr. Messieurs, jingle mercato.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le marcher.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Allez, c'est parti. On commence par Lyon. Lyon hyperactif, le club actif cette saison, cet hiver en Ligue 1. Deux recrues aujourd'hui. Ça vous a pas échappé, messieurs. Un qui va repartir en prêt au Havre, c'est Tino Kadewere, meilleur buteur de Ligue 2, 18 buts en 20 matchs, attaquant du Havre, 24 ans. On parle d'un transfert de 12 millions d'euros avec 2 millions maximum de bonus. Sommes qui sont assorties d'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value. Contrat de 4 ans et demi. Il va retourner au Havre en prêt jusqu'à la fin de la saison. Et donc, Lyon a réussi à arracher un jeune homme qu'on qualifie de grand espoir brésilien, Bruno Guimarães. On dit comme ça ?
Guimarães.
C'était chaud, parce que l'Atlético de Madrid, qui avait une priorité avec une clause de rachat, a essayé de l'arracher à l'OL. Au dernier moment, le Brésilien a finalement choisi Lyon. On parle d'une somme de 25 millions d'euros. C'est énorme, 22 ans.
Ça, c'est pas fait encore.
50 contrats, il a 22 ans, c'est sur le point d'être fait. Le Brésilien arrivera après le tournoi de qualification olympique qui s'achève le 9 février. Il est titulaire dans l'équipe brésilienne olympique. Ouais. Ça fait 3 recrues avec Carl Toko Ekambi. Prêt avec option d'achat, qui est arrivé lundi, qui est dans le groupe déjà pour demain, pour dimanche, la réception du TFC. Supporter lyonnais, appelez-nous. Est-ce que ce mercato, ces choix, vous plaisent côté lyonnais? Toko Ekambi et Guimarães, en attendant Kadewere, la saison prochaine. Les gars, commençons par Guimarães. Vous le connaissez? Tu connais ou pas?
Non, honnêtement, je ne connais pas,
joueur.
Pas particulièrement. Après, j'en ai beaucoup entendu parler.
Il paraît qu'il est très bon sur Football Manager. Le mec a acheté.
J'ai vu quelques. Mais tu rigoles, mais tu sais que souvent sur Football Manager, ça présage souvent de belles carrières.
Bien sûr.
Mais après, de ce qu'on en a vu, j'ai vu quelques vidéos aussi. Bon, ça a l'air d'être un joueur forcément. C'est un Brésilien, c'est un joueur technique. C'est un joueur qui doit avoir une bonne formation. Maintenant, va falloir voir comment il va s'adapter au football européen et à notre Ligue 1, qui, on le sait, est pas toujours facile. On sait que même Juninho, lorsqu'il est arrivé,
Jean-Lucas, c'était quand même un joueur qui a une certaine cote au Brésil.
Donc voilà, on va voir. Mais en tout cas, ça reste quand même un club français qui devance l'Atlético. Si ça se confirme, c'est quand même beau parce que
Diego Simeone était à donf à fond sur lui. Hein. Il le voulait vraiment.
Moi, je l'ai vu jouer une ou deux fois, pas plus, en Libertadores. Avec l'Atlético, c'est un joueur qui est quand même assez imposant, je trouve, physiquement par rapport au milieu de terrain que Lyon a actuellement. Après, voilà, il va falloir s'habituer à l'intensité de la Ligue 1, les défis, les duels qui sont peut-être un petit peu plus rudes que sur le continent. Mais c'est un joueur qui a une très belle qualité, qui marque quand même, qui a une très bonne frappe aussi.
Quel profil milieu de terrain, relayeur, offensif.
C'est ça, voilà. Mais qui a plus en profil, c'est pas vraiment une sentinelle à mon sens. Alors, il peut, je pense, jouer de par son gabarit et de mémoire. C'est un joueur qui est quand même assez agressif dans les duels.
Il peut tanguer
mais dans le positionnement, c'est-à-dire relayer, oui, mais après dans les qualités, non, c'est pas vrai, c'est pas vraiment pareil. Et Ndombele, on parle quand même d'un joueur qui, tu vois, est capable de casser des lignes avec de par ses dribbles qui sont assez impressionnantes. Non, c'est un joueur qui est prometteur, on verra ce que ça donne. Kadewere, très bon choix pour, je pense, de l'avoir acheté maintenant et de le renvoyer au Havre après. Ils en avaient pas forcément besoin parce qu'en termes de profil, ils ont déjà Moussa Dembélé et les deux, même si ça joue en 4-4-2, n'auraient pas été complémentaires.
Pour la fin de la saison, s'il s'en va Dembélé.
Ouais, c'est ça, exactement. Bon, c'est bien d'anticiper, de prendre un joueur qui est prometteur, de le laisser grandir au Havre. Après, voilà, Toko Ekambi, ils ont très bien, surtout dans le profil. Voilà, faut finir la saison. Mais
pas de défenseur.
Voilà, c'est ça.
Alors, on va en parler.
Pour moi, le mercato lyonnais, il est pas forcément hyper complet. Pourquoi ? Parce que je pense, et on va revenir peut-être par rapport, c'est pas pour faire une fixette là-dessus, mais il y a un poste qui est hyper important. Je pense, c'est quand même le poste du joueur qui joue devant ta défense. Et le fait qu'ils recrutent un joueur qui soit un petit peu plus relayeur, plus box to box, j'espère que ça veut dire
Jean-Lucas.
C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'espère que ça veut dire que ils font confiance pour positionner Thiago Mendes devant la défense, qui a certes fait des mauvais matchs à ce poste-là, mais pour moi, je l'aurais laissé le bénéfice du doute parce qu'il peut pas être passé d'un joueur qui a étincelé en Ligue 1 l'année dernière à un aussi mauvais joueur. Maintenant, en tout cas, l'effectif quantitativement, pour moi, elle est complet.
Attends, après les deux ruptures des ligaments croisés de Jeffrey Adelaide et de Depay,
franchement, ils s'en sortent bien.
Plutôt bien.
Ouais, ils s'en sortent très bien.
On va voir, les gars. On sait pas ce que présage
sur le papier.
Sur le papier, c'est quand même très intéressant. Je pense que, alors j'ai vu quand même Florian Maurice et Juninho sur la photo pour le transfert aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien, je trouve que c'est bien. Et on a l'impression que ce club, vraiment, il reprend des couleurs sur le terrain. Le centre de formation également, hein, le gang des Lyonnais, les jeunes qui prennent le pouvoir petit à petit. Hein, je répète, comme vous avez déjà dit, mais je le dis aussi, ne pas être non plus...
Non, mais les s'en servir, mais à
voilà,
bon escient.
Voilà, exactement, aller doucement. Mais on a l'impression quand même que, mine de rien, le club refleurit un peu là avec cette année 2020. Et ces transferts sont très intéressants. Et juste, je voulais dire un truc sur cette arrivée, donc... on va dire probable de Guimarães. Vous savez que les Brésiliens, ils aiment bien un peu vivre en meute, oui. Ils aiment bien être ensemble et cette joie de vivre qui est communicante.
Jean-Lucas,
Thiago Mendes, lui, Martial.
Ouais, c'est vrai, Martial.
Il y a aussi Marcelo. Ouais, mais t'as quand même.
Cinq, ouais.
Tu vois, ça en fait quand même 5 avec si tu ajoutes encore.
Le
père de famille,
Raphaël,
franchement.
Raphaël aussi.
Non, tu vois, je pense que peut-être ça peut se faire une petite émulation et en tout cas, je l'espère pour les Lyonnais. Ça peut aller de mieux.
Visite médicale en Colombie pour lui, avec le médecin de Lyon, qui va faire le déplacement pendant le tournoi après de qualification olympique. Samir, supporter lyonnais, est avec nous 32-16. Bonsoir, Samir, et bienvenue dans l'after sur RMC.
Bonsoir l'équipe, bonsoir.
Salut Samir. Jonathan et Kevin t'écoutent. Qu'est-ce que tu penses de ce mercato pour l'instant?
Bah pour l'instant, franchement, c'est mieux que l'été, déjà, c'est mieux que l'été.
Ouais.
C'est un peu mieux que l'été. En fait, ce mercato-là, il reflète les ventes qu'on va faire cet été.
Ouais, l'été prochain.
C'est-à-dire?
Vas-y.
Explique-nous ça.
C'est-à-dire que.
Deux paillets Dembélé?
Non, je dirais plutôt Dembélé et. Et pour l'instant, moi, ce que je vois là, c'est pour l'instant, ça serait Dembélé. De paille, je pense pas.
Bah, je peux te dire que.
Voilà, il y a de paille, c'est dur de le garder.
Il y a de grandes chances.
Vas-y, Samir.
Il y a de grandes chances. Après, moi, j'espère qu'il restera. Après, moi, c'est sur, Guimarães, franchement, vu comment. Bon, je dis pas que l'Atlético, il s'est tué dessus, mais vu comment ça s'est joué à la dernière minute avec l'Atlético, ça veut dire que le mec a un potentiel. Après, comme l'a dit Joe, c'est sûrement pour que Thiago Mendes redescende. Soit en 6 et que lui il remonte parce que c'est personnellement c'est pas les matchs
tu crois encore à Thiago Mendes?
Ouais, 6 mois.
Non, bien sûr, je dis pas qu'il faut pas y croire. Je te demande qu'est-ce que tu en penses.
Attention, faut pas le mettre à la cave tout de suite le mec.
Ouais, bien sûr.
6 mois, il change de club, si c'est pas pour je dénigre pas Lille. Mais nous on a notre statut que Lille et t'arrives comme disait Roten la dernière fois, t'arrives
et là
Et après, comme il a dit Jérôme Roten, le mec il vient, il s'est cru un peu, il s'est dit ah ça y est, il a atteint un autre niveau, il a pris un peu plus de confiance. Maintenant, je pense que vu les s'il regarde bien ses matchs, j'espère que quelqu'un lui dit en interne qu'il faut qu'il se remette un peu en question et en espérant qu'il retrouve qu'il retrouve ses pieds quoi. Mais après pour l'instant maintenant il manque juste un libéro et j'ai vu je sais pas si vous avez regardé mais j'ai vu qu'à ce qui paraît on était sur peut-être que Paulo Breitner,
un défenseur du Borussia, exactement, on va en parler
sur un mec du Borussia
Akanji.
Voilà, c'est ça. Donc après je sais pas si c'est de l'intox ou si c'est des rumeurs de couloir, des bruits de couloir, mais en espérant que ça soit vrai.
Ouais.
C'est ce qui nous manque. Et puis aussi un arrière gauche, parce que Marçal c'est pas
L'Europe entière cherche un arrière gauche, hein.
c'est pas comment
j'ai dit, l'Europe entière cherche un arrière gauche.
Oui, l'Europe entière, ouais. Moi personnellement j'aurais mis Dani Rose, le relancer, ça peut être
Moi j'ai déjà dit ici le meilleur arrière gauche sur le marché aujourd'hui, alors sur le marché entre guillemets parce qu'il est pas forcément à vendre. Mais franchement, Alex Telles du FC Porto, pour un club comme Lyon, alors c'est encore un Brésilien, mais c'est
exceptionnel. Je vais vous donner une petite info. Je sais qu'il y a j'ai parlé à son agent. Je sais qu'il y a un très bon latéral gauche qui a été proposé à Lyon. C'est Franck Fabra, le latéral gauche de Boca Juniors, qui joue aussi avec la Colombie. On l'a vu contre la France, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous en rappelez. Apparemment, il n'y a pas eu de réponse, mais ça peut être une bonne affaire pour n'importe quel club de Ligue 1, hormis le Paris Saint-Germain, Franck Fabra.
Voilà, l'idée de Jonathan, pourquoi pas la proposition.
Il a été proposé.
L'info de Jonathan. Merci Samir.
De rien.
Merci Samir, à toi, messieurs. Je rappelle on a deux joueurs offensifs, Kadewere qui viendra la saison prochaine. On a un attaquant Toko Ekambi qui est déjà dans le groupe et on a mis au terrain relayeur.
Il y a de quoi faire de ce.
Et Lyon a précisé également qu'ils étaient à la recherche d'un défenseur central. En plus, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule, ce pourrait être Akanji, Manuel Akanji, international suisse du Borussia qui enchaîne les matchs. C'est un cadre, 30 matchs la saison dernière, déjà 18 matchs cette saison qu'a joué ce soir. On en parle dans un instant avec Paulo Breitner.
pour moi maintenant l'effectif, voilà, moi, je considère que Memphis se soit blessé ou pas blessé, que pareil pour Jeffrey Adelaide, la double confrontation contre la Juve c'est du bonus, tu vas sortir, ça sera tout à fait normal, autant faire bonne figure, mais à la rigueur on s'en tape. Maintenant ce qu'il faut c'est absolument, on le répète, se qualifier en Coupe d'Europe, parce que ça serait un cataclysme que Lyon ne soit pas qualifié en Coupe d'Europe. Je sais plus combien d'années ça fait qu'ils y sont. Donc là quand je regarde l'effectif qu'ils ont, même s'il y a pas de recrues en défense, je pense que tu as quand même l'effectif pour remonter. Il y a quand même de la qualité avec les jeunes qui poussent, avec les recrues. Voilà, à Garcia de bien gérer son affaire, mais il y a largement de quoi se refaire la cerise.
Dimanche 15h, hein, Lyon reçoit le TFC. Je rappelle que Touzard est parti au Hertha Berlin également.
Ouais.
Tata Roussanou sera titulaire demain. Anthony Lopez
est blessé.
Tout contusion à l'épaule. Autre info mercato, messieurs. Comme annoncé notamment par nos confrères de l'équipe, la Juve et le PSG discutent d'un échange entre Lévin Kurzawa et Mattia De Celio. Ils sont proches de trouver un accord. Ça, c'est aussi une confirmation RMC Sport. Les deux clubs sont assez optimistes pour boucler cette opération évoquée avec insistance serrée par la presse italienne ces dernières heures.
Bah, de toute façon, moi,
il gagne ou pas, franchement. Kurzawa, De Celio qui joue peu, souvent blessé.
C'est simple. Moi, je comprends tout à fait au final cet échange.
Pourquoi?
Lévin Kurzawa, 0 but, 0 passes en championnat. De Celio, Serie A, 0 but, 0 passes dé. Bon, bah voilà. Je pense que les deux clubs y gagnent.
Sauf que lui, il est polyvalent, il peut jouer à droite et à gauche.
Alors, voilà, c'est des joueurs, qui sont barrés dans leur club.
C'est gagnant.
Ça de façon un peu. Mais bon, Kurzawa, c'est 11 matchs. De Celio, c'est 9 matchs.
Ouais, mais à un moment, Kurzawa stop, en fait.
Alors, c'est deux joueurs qui sont dans la passe.
Il faut arrêter.
Il faut tenter autre chose.
C'est gagnant-gagnant, pas pour les clubs, on sait pas, on verra. Mais c'est gagnant-gagnant pour les joueurs, parce que je pense que Kurzawa, c'est un très bon joueur. Il peut pas être devenu le fantôme de lui-même. Il faut juste qu'il change de contexte, d'environnement. Donc, de partir du PSG, c'est nécessaire. Et de Celio, c'est pareil, parce que les souvenirs qu'on en a quand il jouait au Milan AC, c'était un super joueur. Il est arrivé à la Juve, je pense que voilà, avec la concurrence, avec le fait de partir, parce qu'il est formé au Milan AC quand même, il a eu du mal à s'adapter. Mais les deux, c'est des joueurs qui sont pleins de talent, mais qui sont dans l'impasse dans leur club respectif. Donc changer d'air, c'est très bien, et on verra ce que ça
fait. Et relancez-vous, messieurs. Ouais. Voilà, l'un à la Juve, l'autre en plus, au PSG.
Pour le coup, Lévin Kurzawa, c'est exactement ce qu'il lui faut. Un club vraiment rigoureux, strict.
Une ville un peu moins festive, peut-être.
Voilà. Il va retrouver Adrien, ils vont pouvoir aller.
Ah oui, c'est drôle, là, mon Dieu. Ouais, c'est pas forcément la meilleure idée, ça. On revient dans un instant. Paulo Breitner est dans le sas de l'after. Il arrive, bien sûr, avec sa voix suave et sa culture universelle. Et on va parler du Borussia Dortmund. On va parler d'un mutant qui a débarqué en Bundesliga il y a à peine même pas un mois. À tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas
Jamain. Avec Jonathan Bacardi, avec Kevin Diaz, bien sûr, l'after est là jusqu'à minuit. Un message pour toi, Jonathan, sur Direct Studio de Dieter qui nous dit: Monsieur Bacardi, à la fin de l'émission, il va finir torse nu. À quoi ça sert, Jonathan, de mettre une aussi belle chemise pour la déboutonner à ce point? Elle est belle, ta chemise, c'est vrai. Et bon, il y a un tatouage en dessous, donc
trop de tatouage,
pour le montrer. Un tatouage, ça se montre.
J'ai fait les pecs ce soir, c'est pour ça. On s'en tape aller.
T'as épilé les pecs?
Mais non, faire les pecs, c'est-à-dire qu'à la muscu, j'ai fait les pecs, donc ils sont un peu, tu vois, t'es un peu congestionné.
J'ai quand même aussi, je pense, non, ouais.
Mais j'ai pas de poils. J'ai pas de problème là.
Allez, Mission to Dortmund, c'est dans 26 jours.
RMC.
Mission Dortmund, J-25.
Ah non, c'est Mission Dortmund, faut que j'ajoute le tout. Comment on dit en allemand, Paulo Breitner?
Missionar Dortmund,
moi je suis. Bonsoir Polo.
Salut Polo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Salut Polo. Bon ben voilà, tu t'es régalé ce soir. J'ai vu des bouts de match simplement, pour être très honnête, mais j'ai vu un mutant qui bat un record d'intégration Bundesliga. 5 buts en 57 minutes de Bundesliga.
Ouais, c'est impressionnant. Haaland, évidemment, qui n'était pour la deuxième fois la suite pas titulaire, et donc pas titularisé par Lucien Favre.
Pourquoi d'ailleurs?
Bah parce qu'il a toujours eu, rappelez-vous, mi-décembre, il a eu une déchirure musculaire au niveau abdominal, une déchirure abdominale, donc c'est assez douloureux. Il s'est chuté un petit peu au début janvier lorsqu'il était à Marbella en stage avec le Borussia Dortmund, et en fait il a un certain retard physique, et donc Lucien Favre ne veut prendre aucun risque. Bon, évidemment aussi dans l'objectif qu'il soit là pour le PSG mi-février. Donc tout ça est intéressant. On est repassé encore une fois dans une défense à 3 qui a moyennement fonctionné, mais mieux, beaucoup mieux que celle contre Augsbourg. Évidemment, lorsque tu ouvres le score dès la première minute par Guerrero, cela aide beaucoup. Maintenant, il y a une chose qui m'a un petit peu dérangé dans ce match-là, parce qu'on retrouve encore les lacunes de Dortmund, c'est qu'il y a 3-0 pendant un moment, et puis il y a 3-1, parce que Cologne, évidemment, cherche à sauver un petit peu le match, et Cologne a d'ailleurs une occasion de 3-2 sur une tête décroisée du Jonas Hector. Et donc, si tu veux, les grandes équipes, elles se font pas peur comme ça. Et là, on l'a eu un petit peu encore, et puis évidemment, Haaland est rentré. Alors attention, il est friable, il est humain, puisqu'il a perdu un duel en tête-à-tête avec le gardien de Cologne, Timo Horn, et donc, voilà, il ne marque pas systématiquement, et bon, il a quand même mis un doublé ce soir. Donc voilà.
C'est assez impressionnant.
Pardon?
C'est quoi ces deux buts? Ils sont comment?
Ah le premier, c'est un véritable but des renards de surface, qu'il était placé au plein central. Le gardien touche la balle et évidemment, il est là pour la reprendre. Et la deuxième, il fait un appel en profondeur. Il gagne son duel avec Timo Horn qui veut éviter le penalty. Et juste avant la ligne de corner, il aligne le gardien. Ouais. Et il marque dans le but. Ça fait 5-1. Oui.
Paulo, juste une petite question. Je discutais avec Eric Huette qui me parlait de la prononciation de Haaland. Ça te fait pas trop mal de prononcer son nom avec l'accent norvégien, ou peut-être tu le fais pas?
Erling Haaland.
Ah non, je le fais pas, non.
Erling Haaland.
Ah ok, Haaland, ça te met pas ça.
Haaland.
Ok. Est-ce que l'Allemagne.
Mais j'ai cru comprendre qu'on n'avait plus le droit de le dire, Hollande.
Ah ok.
Non,
ah,
c'est les Pays-Bas en plus. Hein. Vous savez que c'est les Pays-Bas en plus. Hein. La Hollande, c'est une région, c'est ça?
Ouais, la Hollande, c'est une région et c'était l'ancien nom du pays, c'est comme la Gaule, quoi, vous voyez.
Exactement. Comme la Gaule.
Donc, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Mais ce soir, au-delà de.
Comment l'Allemagne accueille ce joueur-là avec ses 5 buts en moins d'une heure de jeu? C'est la folie ou pas?
Oui, déjà le triplé le week-end dernier, t'avais que de ça dans les médias. Le problème, encore une fois, c'est que ce triplé a caché les lacunes du Borussia, et notamment défensivement parlant. Ouais. Et là, c'est pareil, ça repart, c'est qu'on parle de la Haaland partie. Je regardais Bild juste avant pour son jeu. Mais il faut regarder le match en sa globalité. Marco Reus, qui avait été très mauvais contre Augsbourg, était exceptionnel ce soir. La Rolls-Royce est de retour, ça fait du bien. Thorgan Hazard a été moyen ce soir. Sancho est toujours là. Il t'a cassé les reins du défenseur de Cologne pour son but. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Par contre, encore une fois, c'est un jeu qui est très déséquilibré. On dit même en Allemagne parfois un peu trop au niveau du spectacle, et au PSG d'en profiter, quoi. Mais par contre, offensivement, on s'éclate, quoi.
Tiens, c'est assez rare et on va le faire. On va accueillir Karim, supporter du Borussia Dortmund, dans l'after. Bonsoir, Karim.
Bonsoir tout le monde.
Raconte-nous déjà comment tu es devenu supporter du Borussia. C'est ça la vraie question.
En fait, moi, à la base, j'étais supporter de Marseille, parce que quand j'étais petit, tous mes cousins étaient pour Marseille.
Ouais.
Et après, à mes 14 ans, j'en avais 15 ans plus tôt, j'en avais marre d'être dégoûté à chaque match.
Honte à toi, Karim.
C'était nul.
Honte à toi. J'ai honte de toi. Tu mérites
de Karim.
Je pense qu'on va couper l'entente.
Non, mais parce que je suis pas marseillais à la base.
Mais t'aurais pu basculer Real.
Un choix, c'est pour la
Liverpool, ou pourquoi Dortmund?
Non. Pourquoi Dortmund? Pour leur philosophie de jeu.
Ouais.
Je suis fan.
T'as quel âge maintenant, là? C'était en quelle année que t'es tombé amoureux d'eux?
J'ai 29 ans. Je suis tombé amoureux d'eux en 2013, surtout.
Ouais. T'as un footix.
Moi, je le dis, j'assume. Je suis un footix, mais j'ai un regard d'expert après. Pour
ça va, alors. Ben oui, mais c'est footix, c'est pas forcément
alors.
Péjoratif.
Dis-nous alors.
Vas-y, Karim.
En fait, moi, je voulais parler d'Haaland. Cet été, il a marqué 9 buts en un match.
En fait,
quand j'ai vu cette information,
c'était au Mondial U19, je crois. Ou...
C'est ça, Mondial U19. Et je me suis dit, moi, je fais du foot. Même au niveau amateur, c'est pas anodin un joueur qui met 9 buts en un match.
Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable.
C'est incroyable de mettre 9 buts en un match.
Là, en 24 matchs cette saison, il a 33 buts et 7 passes décisives.
Non, mais c'est ça.
Salzbourg, il était à 28 buts en 22 matchs. Il met triplé pour son premier match de Ligue des Champions. Et là, c'est deux premiers matchs avec Dortmund. En fait, à chaque fois, on se dit, le niveau, il est faible. Quand il était à Salzbourg, oui, c'est le championnat autrichien, c'est faible. Ligue des Champions, il a mis tout le monde d'accord. Et là, avec Dortmund, j'ai vu le premier match, il rentre. Un joueur qui rentre à ce moment-là, quand on perd 3-1, c'est très difficile. Il rentre, il change le match. Là, aujourd'hui, il rentre. Il y avait déjà 3-0. Là, il y avait 3-1. Franchement, je regarde le foot depuis tout petit. J'ai rarement vu un joueur avec autant de qualité. Il a 19 ans. J'ai l'impression, devant le but, il a rien à apprendre.
Ouais.
Ses déplacements, ils sont exceptionnels. Son premier but, l'anticipation qu'il a sur la frappe, je sais plus ce qui a tiré à Dortmund, mais il anticipe ouais, l'arrêt du gardien.
Ça s'appelle le sens du but, Karine. Karim,
le sens du but exceptionnel. Et il va très très vite.
Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est par rapport au gabarit.
C'est rare comme profil.
Oui, c'est 1m94.
Voilà, à l'époque des numéros 9 d'un mètre 75, 80, avec un centre de gravité hyper bas, très mobile. Là, on a un mec, il est mobile.
C'est un vrai.
C'est un pivot.
Techniquement, il est énorme, mais techniquement aussi dans sa conduite de balle, il n'a pas la conduite de balle de 1m95. C'est ça, en fait, c'est sa qualité technique. Écoute, c'est sa qualité technique avec ses mensurations, en fait. Et tu sais, avant le match avec Nico, pour les fans de NBA, puisque c'est la soirée, on parlait de Yanis Antetokounmpo.
Qui est un mutant aussi.
Qui fait 2m13, mais qui est capable de courir vraiment, tu vois, à une vitesse quasiment comme un mec d'1m80. Et Haaland, c'est pareil. Comme disait Jonathan, il a une dextérité, une motricité balle au pied d'un mec d'1m80-85, alors que le mec, il fait presque 2m, quoi.
Mais c'est ça, mais regardez,
Polo.
Non, mais ce qui était intéressant, il y a deux choses. Lorsque je l'ai vu physiquement, il m'a rappelé Luca Toni. Lorsqu'il était au duel avec les défenseurs, sauf que Luca Toni, en dehors du fait que c'était un très, très grand buteur, n'a pas la motricité, évidemment, d'Haaland. Ouais. Et c'est assez impressionnant, la façon dont il prend la profondeur. Mais en plus, moi, ce qui me plaît, c'est ce que dit Lucien Favre. Un, il arrête pas d'apprendre, c'est-à-dire qu'il écoute tout ce qu'on lui dit. Et en plus, à chaque fois qu'il rate une occasion, même à l'entraînement, il est en colère contre lui-même. Tu vois, c'est pas par rapport à ses coéquipiers ou des choses comme ça. C'est que le mec, il en veut tout le temps. Donc, c'est assez intéressant de voir ça, comment ça va évoluer. Maintenant, encore une fois, il y a des faiblesses, parce qu'ils ont encore perdu des ballons au milieu de terrain, notamment Julian Brandt, ça peut aller très vite avec le PSG. Ce qui est sûr, c'est que moi, je voudrais le voir en début de match, ouais. Et je voudrais le voir à nouveau en 4-2-3-1. C'est-à-dire que je voudrais vraiment qu'on ait l'équipe théoriquement type qu'on aurait.
Alors, vas-y, Polo, c'est une question que je vais te poser. À quoi devrait ressembler le 11 face au PSG?
J'espère.
Dis-moi, ça m'intéresse. Il peut y avoir du mouvement, des changements. Est-ce que peut y avoir des départs ou des arrivées d'ici la fin du mercato?
Il y a une dizaine de jours, j'ai été informé du fait qu'il y avait un défenseur central du Borussia Dortmund, en l'occurrence le Suisse Akanji, qui avait obtenu un bon de sortie pour une raison bien simple, c'est qu'il est mauvais, quoi. Donc ça fait 2 ans, ça fait partie de ces jeunes joueurs, tu sais, qui de Suisse qui arrivent en Bundesliga, on essaie de les faire progresser, sauf que là ça fait 2 ans qu'il joue, il est quasiment titulaire, mais il progresse pas, donc c'est compliqué. Donc cette information, moi je l'avais annoncé en Suisse, que je travaille aussi là-bas, évidemment c'est très important pour eux, et puis cette formation est arrivée éventée en Allemagne puisqu'elle a été sortie hier ou avant-hier par le journal Sportbild. Comme quoi, en effet, il a eu un bon de sortie et que le Borussia Dortmund en a un petit peu marre.
Et que Lyon est intéressé a priori. Vas-y.
Alors ça, moi, je n'ai pas l'information. Ouais. Ce que je peux rajouter, c'est que, et ça c'est très très récemment, c'est que ce bon de sortie pourrait être valable non pas pour cet été mais cet hiver aussi, c'est-à-dire jusqu'au 31 janvier, si la somme que demande le Borussia Dortmund est intéressante, enfin est validée. Moi, l'information que j'ai, c'est qu'il y a en effet un club de première ligue qui est sur Akanji, donc je peux pas confirmer Lyon ou l'infirmer, je ne le sais pas du tout, mais ça pose un problème puisque rappelez-vous qu'ils ont lâché Weigl qui est parti au Portugal, ouais. Zagadou est touché en ce moment, il trottine, le défenseur argentin Balerdi, il est encore en Amérique latine. Il n'a pas bien compris ce que c'est que le niveau en Europe. Et donc, si tu veux, c'est un petit peu compliqué. S'il partait, je ne vois pas comment on ne pourrait pas avoir un autre joueur qui arriverait, mais je ne sais pas lequel, je n'ai pas l'information.
Voilà, donc pour le Borussia Dortmund, c'est dans 26 jours, ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Merci, Polo.
Merci beaucoup.
Excellente soirée à toi, ciao. Karim. Bonne soirée également. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Hein.
Mais même si t'es un footix, tu peux revenir, Karim.
C'est pas un footix, Karim.
T'es le bienvenu. Bah, il a dû lui-même.
Oui, c'est un footix, mais il assume. Attention, footix, c'est bon, bref.
Il n'y aurait pas une super émission qui arrive là tout de suite, hein?
Ouais, le RMC Fighter Club, je crois.
Exactement.
Jonathan Bacardi, merci. Kevin Diaz, merci. Très bon after. Demain soir, on se retrouve, messieurs, après la soirée de Ligue 1. Excellente soirée à tous.
RMC. L'after foot.